La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce grain de causette consacré cette fois-ci au métavers et à la culture, ou plutôt aux cultures au pluriel, devrait-on dire. Alors, les métavers sont présentés comme la troisième révolution du web, un monde en ligne, une somme en soi, au sein de laquelle l'utilisateur se promène et interagit via un personnage numérique appelé avatar, souvent une représentation numérique de soi-même. Mais il faudrait bien se garder de ne voir en cette révolution qu'une simple innovation technologique. Les métavers et leurs formes connexes constitueront à l'avenir des modèles dominants d'existence numérique. L'enjeu des métavers du point de vue des institutions culturelles, qui nous intéressent évidemment, est de réunir sa communauté d'utilisateurs, de proposer des expériences innovantes, créatives et participatives, de rencontres avec les œuvres de l'art et de l'esprit. En ce sens, la France a sans doute vocation à devenir un acteur central des métavers, du fait du capital symbolique attaché à la culture. Pour sortir des poncifs autour de ces univers virtuels, qui sont encore très mal connus en France, et qui, on le disait, constitueront bientôt de nouveaux modes de sociabilité culturelle, nous recevons un expert et concepteur de métavers, François Vanil. Issu de l'éducation populaire, François Vanil a un parcours de 30 ans en tant que coordonnateur socioculturel et cadre intermédiaire dans les collectivités territoriales et au service de l'État. Dans le domaine des politiques publiques, de la vie associative, de la culture, de l'enfance, de la jeunesse, des cultures numériques, des affaires sociales, de l'engagement, de la citoyenneté. Il est développeur, responsable d'équipement, recevant des publics, animateur, médiateur. En 2013, il a créé le groupe LinkedIn Professionnel de la Culture, qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de membres. Et François Vanil est aujourd'hui architecte de solutions pour le télétravail, les loisirs, la visioconférence spatialisée 2D et objets connectés, le travail et les événements des institutions et des entreprises. C'est donc un expert doublé d'un médiateur culturel, spécialiste des littératures de l'imaginaire, je le rappelle parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi aussi très fortement, même si c'est pas le sujet du jour, mais c'est un de ses nombreux violons d'Ingres. Et donc j'ai le plaisir de l'interviewer aujourd'hui, François Vanil, bonjour.
Bonjour Thibault.
Alors pour commencer, François, il semblerait que les acteurs culturels aient bien du mal à donner une définition qui fasse consensus de ce qu'est le métavers ou de ce que sont les métavers, selon les constats posés par les trois auteurs de la mission exploratoire sur les métavers, dont le rapport a été remis assez récemment, le 24 octobre dernier, à Rima Abdulmalak, ministre de la Culture. Pourriez-vous donner, s'il vous plaît, à nos auditeurs votre définition de ce qu'est le métavers ou de ce que sont les métavers ?
C'est la prochaine mutation technologique et sociale du web, donc le web 2.0, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est ce qui va devenir le web 3.0. C'est un univers immersif, persistant, où se superposent à son thème, à son décor, différentes couches d'informations qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres et avec le décor initial. Par exemple, un métavers avec une ambiance cyberpunk peut traiter de permaculture et abriter une communauté d'utilisateurs en lien avec ce sujet. Donc le décor n'a pas forcément de lien avec un thème qui est traité. Donc c'est donc à la fois le métavers, un jeu vidéo, un réseau social et un bureau virtuel.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait que les institutions culturelles se soient peu saisies de cet outil des métavers, justement, pour travailler ces questions qui les préoccupent, les musées, les bibliothèques, de l'inclusion sociale, citoyenne, des humanités numériques, ce sont des questions qui nous préoccupent. Et pourtant, à quelques rares exceptions près, on en citera quelques exemples tout à l'heure, il y a peu d'institutions qui se sont saisies de ces outils-là. Comment l'expliquer, selon vous ?
Le métavers, tout simplement, a mauvaise presse encore à l'heure actuelle. Et donc, j'imagine que ce n'est pas un outil qu'elles vont privilégier et prioriser de ce point de vue-là, parce que déjà, c'est un outil indirect en termes de contact avec le public. Donc, ce n'est pas forcément le premier outil adapté par rapport à un lieu où une institution dans laquelle on passe la porte.
Oui, je pense qu'effectivement, vous avez dit l'essentiel en disant que c'est encore un outil qui pose question, notamment sur les données recueillies, on y reviendra, et que les gens connaissent fort mal. Hein. Est-ce que je dis quelque chose de faux en disant que finalement, ce qui nous a fait le plus approcher ça, c'est le film de Spielberg, Ready Player One, qui a une dimension extrêmement ludique, mais c'est là que les gens ont pu commencer un peu à voir à quoi ça pourrait ressembler.
Alors, je n'ai pas vu ce film, mais... Effectivement, les gens ont simplement l'information que leur donnent les big tech. Hein. C'est-à-dire, il y a eu récemment un gros coup de com' de Facebook qui est devenu Meta, qui s'appelait Meta, et donc et ça n'a pas fonctionné en termes de mondialisation du concept, on va dire. Donc du coup, la mayonnaise n'a pas pris en termes de communication et surtout d'ouverture du grand public à cet outil.
Oui, et pourtant, Facebook continue d'annoncer que la quasi-intégralité de son activité va, à terme, assez vite, disent-ils, basculer dans ce métavers. Hein. Je ne suis pas sûr qu'effectivement le public y soit prêt. Ça pose pas un certain nombre de questions. L'industrie du jeu vidéo est devenue l'une des plus lucratives de toutes les productions culturelles. Et dans cette optique, d'ailleurs, Facebook, qui a d'ailleurs acquis Oculus Rift, une marque de casque de réalité virtuelle, en 2014, a annoncé son intention de créer son propre métavers, hein, on y vient, car son modèle économique est basé sur la collecte massive de données personnelles pour vendre des profils à des entreprises publicitaires. 86 milliards de dollars de revenus en 2020. Comment se prémunir, selon vous, contre ces dangers qui pèsent sur nos libertés individuelles? Et la culture a-t-elle un rôle particulier à jouer pour justement sortir un petit peu de ces visions réductrices, hein, portées par des acteurs privés tels que Meta, Facebook, ou même des puissances publiques étrangères comme la Chine et la Corée du Sud?
Oui, oui. La Corée du Sud, elle est quand même en train de réussir avec Zepeto, c'est des centaines de millions d'utilisateurs. Ce que justement Meta, Zuckerberg, ont lamentablement échoué. Hein. Mais je vois ce que vous voulez dire, c'est le mouvement du logiciel libre, à mon sens, hein, et une démarche plutôt, une démarche résolument non marchande qui permettra de dépasser cette vision réductrice, en fait, et notamment par l'éducation populaire.
Depuis plusieurs années, et bien avant que Facebook ne s'en préoccupe, le terme de métavers était utilisé pour décrire l'horizon commun des technologies immersives. On les retrouve à l'œuvre dans de nombreux dispositifs numériques, hein, en matière de découverte des arts, notamment comme pour la Gaîté Lyrique à Paris, le Cube à Issy-les-Moulineaux, le Centre des Arts à Enghien-les-Bains, le Frénois à Tourcoing. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans susciter débat chez les spécialistes de la médiation. Certains trouvant que justement cet accès distancié virtuel à l'œuvre dénature un petit peu le rapport, hein, entre le citoyen et l'œuvre culturelle, entendu dans un sens large. Comment analysez-vous ces nouveaux dispositifs, je pense spécialement aux musées, hein, qui s'en saisissent de plus en plus?
La médiation, pour moi, elle a une double fonction que ne voient pas toujours justement les spécialistes. C'est la désacralisation du musée ou de l'institution culturelle en général, et l'appropriation du lieu par d'autres classes sociales que les notables, les bourgeois, c'est-à-dire les prolétaires, par exemple. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure en parlant de grand public. L'idée, c'est de vraiment ouvrir. Et donc, la médiation, dans sa fonction, pour moi, elle sert à ça. L'idée, c'est que les institutions telles que les musées ne deviennent pas justement un Disneyland de la culture ou un centre d'art contemporain. Moi, je pense que les outils que la médiation doit utiliser et ce vers quoi elle doit s'orienter, c'est de privilégier la mise en valeur de la technique artistique plutôt que la simple expression et la performance. dans tous les dispositifs, puisque bon, c'est de ça aussi que parlent les spécialistes, hein, c'est le principe de la scénographie qui pose question là, sur ce sujet-là.
Et vous ne pensez pas simplement aux arts numériques lorsque vous dites ça, hein, mais finalement à toute forme d'expression artistique. Hein, ça peut être y compris, pourquoi pas, les ateliers d'écriture qu'on mène via des métavers.
Oui, c'est ça, ouais.
Quel regard vous portez sur les jeux vidéo? Parce que s'il y a bien un art, hein, enfin, moi je pense que c'est, qu'on peut tout à fait lui donner ce terme-là, qui est transversal, c'est le jeu vidéo, puisqu'on retrouve de la cinématique, de la musique, des technologies, du storytelling. Finalement, est-ce que le déclic ne va pas venir du jeu vidéo? Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, un jeu vidéo que connaissent très bien nos ados, qui est Roblox, est déjà une forme de métavers? Est-ce que c'est par là, finalement, est-ce que c'est pas par ce point d'entrée du jeu vidéo qui trouve de plus en plus sa place, hein, d'ailleurs, dans les institutions culturelles, je pense notamment aux bibliothèques qui s'en saisissent de plus en plus. Est-ce que c'est pas par ce biais-là que le déclic va naître?
Oui, c'est possible, mais il faut vraiment voir deux aspects, à la fois l'outil et le modèle économique qu'il y a derrière. Parce que Roblox, justement, c'est le bon exemple, c'est que leur modèle économique est de proposer à des développeurs qui développent gratuitement des jeux, des outils, mais eux, ils n'investissent pas de pédagogie dans le développement de leur outil. C'est une façon un peu de manipuler le public, enfin les utilisateurs par rapport à ça. Parce que le modèle économique, finalement, du métavers induit aussi les comportements des utilisateurs. Hein. Et c'est important, enfin, c'est pour ça que moi, quand je parle d'éducation populaire, je vois cet aspect-là. On peut se prémunir, en fait, on parlait aussi de se prémunir de ça tout à l'heure. C'est en s'appropriant le métavers, avant que justement toute la partie économique, c'est-à-dire les marchands du temple qui cherchent à nous le vendre, c'est de permettre au grand public de s'approprier l'outil. Et ben, le métavers, pour moi, c'est comme les autoroutes. Il faut les nationaliser si on veut pas se faire détrousser par les big tech, Google, Facebook, enfin. Tous les big tech qui sont en train de mettre les pieds dans le métavers, mais qui en font un grand marché finalement, et qui est surtout accessible. Alors la question, elle part du jeu vidéo. Les utilisateurs de jeux vidéo, l'intérêt, c'est que pour rentrer dans le métavers, il faut pas un PC justement de gamer. Les PC de gamer, c'est des PC qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros. Et l'intérêt, si on veut que ce soit un outil grand public, le métavers, c'est que ce soit accessible d'un simple ordinateur sans connaissance technique particulière. Et c'est à ça qu'il faut arriver, justement. Et quand une collectivité, une institution développe un outil de médiation par rapport à ce genre d'outil, justement, il faut bien réfléchir sur l'aspect technique, sur un sujet dont on parle beaucoup dans le métavers, mais dans d'autres sujets technologiques aussi, c'est l'interopérabilité, qu'on puisse se connecter de son téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, et de façon simple et rapide.
Oui, alors il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. Les communautés du métavers sont assez naturellement collaboratives, hein, et participatives. Est-ce à dire, parce que ça c'est une question qui évidemment traverse vraiment toutes les institutions culturelles aussi, cette participation des usagers, hein, des citoyens, y compris au devenir de l'institution. Est-ce à dire que les projets de demain devront être bâtis avec les usagers destinataires? Est-ce que c'est la vision que vous avez, vous aussi, en tant qu'expert, conseil, designer de métavers?
En effet, hein, pas de métavers sans communauté. Et on revient encore à l'éducation populaire, hein, qui reste souvent à la porte des institutions culturelles, justement, parce qu'elle est perçue juste comme une activité, mais c'est aussi un outil d'émancipation de l'individu. Puisque la définition de l'éducation populaire, c'est quand même l'éducation par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Donc on est complètement, on enfonce une porte ouverte, hein, en disant qu'il faut une communauté pour un métavers. C'est que cette communauté-là, on la réunit justement en lui facilitant l'accès, en la formant, puis surtout en lui permettant de s'auto-former et de communiquer l'outil à sa famille, à ses voisins, à ses amis, voilà. Que vraiment l'outil soit accessible partout. Quoi.
Alors, les expériences culturelles virtuelles se développent à l'image de Vroom, le premier métavers français entièrement dédié au secteur culturel, soutenu par le compositeur Jean-Michel Jarre, dont vous avez sans doute entendu parler, François. Ces univers sont peuplés aujourd'hui par des publics assez jeunes, hein, entre 10 et 15 ans, qui seront indubitablement le public de demain. Hein. Il est donc primordial que le monde de la culture comprenne comment ces univers fonctionnent et se forment pour pouvoir s'adapter. Quelle pourrait être la stratégie d'un établissement culturel qui souhaiterait s'investir dans ce champ du métavers et former ses personnels? Quelle serait la bonne stratégie d'un directeur d'établissement demain, avec toutes les contraintes qui sont celles des responsables d'institutions culturelles, pour se lancer et pour sensibiliser son personnel aussi?
L'enjeu, c'est bien ça, l'enjeu du métavers et qui plus est, donc du métavers culturel, c'est l'accessibilité, notamment des publics dits éloignés, et plus largement l'accès simple et facile pour le grand public, comme je disais tout à l'heure. L'accueil des publics dans une zone franche, voilà un exemple, affranchi de la violence symbolique qu'ont les institutions, puisqu'on dit souvent que, par exemple, une personne a du mal à passer la porte d'un musée parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ce symbolisme. Et donc, un endroit de faire du lieu, un lieu où on peut s'approprier le lieu en le mettant en mode bac à sable, comme on dit justement dans les métavers, dans le virtuel. Par exemple, de permettre à des usagers de refaire le plan d'un musée ou de réorganiser l'agencement des salles, mais dans le virtuel à ce moment-là. Une institution culturelle, elle permet par ce biais-là à son public de s'approprier finalement le symbolisme de l'institution en le travaillant. C'est pour ça que j'utilise le terme bac à sable. Et de façon qu'il n'y a finalement pas d'incidence directe sur la scénographie, la médiation, l'organisation, la gestion des fonds, la sécurité. C'est quand même, de ce point de vue-là, c'est un outil qui est super utile et pratique pour quelqu'un qui gère une institution culturelle, parce que justement, avec ce mode bac à sable, elle permet à la fois de développer une communauté et que les gens s'essayent à s'approprier le lieu.
Ouais, c'est sacrément intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ça va beaucoup intéresser notamment nos collègues des musées, parce que le dernier rapport décennal du ministère de la Culture pointait justement une difficulté notamment à aller vers les jeunes publics, à élargir un petit peu le spectre habituel de leur public. Et effectivement, ce recours aux nouvelles technologies, il est pas gadget, hein, il porte en lui, comme vous le démontrez, une volonté aussi de rendre l'usager un petit peu plus acteur, beaucoup plus participatif en tout cas. Hein. Quels sont les atouts culturels français qui pourraient, selon vous, favoriser une présence sur le métavers?
Pour moi, ça tient en un mot et il y a vraiment un travail gigantesque, monumental à faire dessus, c'est la francophonie tout simplement. Parce que ça permet aussi d'utiliser, entre guillemets, la mondialisation que nous proposent les big tech, justement par un biais où on met en valeur justement la France à travers déjà sa langue. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. La France, c'est un des pays qui a un des plus grands domaines maritimes dans le monde. Donc, il y a des sujets comme ça qui sont faciles à mettre en valeur pour une institution culturelle. Le patrimoine immobilier, l'architecture, les livres anciens. En tout cas, en premier lieu, pour moi, c'est la francophonie qui est vraiment un vecteur qui peut vraiment vous booster. Booster tout ça.
Alors, pour conclure notre entretien, François, est-ce que vous pourriez nous citer, pour nos auditeurs, quelques expériences culturelles que vous avez pu conduire ou simplement dont vous avez eu connaissance et qui vous semblent particulièrement porteuses de sens?
Oui, j'en ai deux. J'ai organisé plusieurs expos virtuelles, moi, dans le métavers de Gazerton, qui est ma spécialité. Hein. Et notamment, j'en ai fait une sur les cultures d'imaginaire avec une association de Nevers. J'ai fait un musée du jeu et des ludistes, par exemple. J'ai simplement repris des photos de leur fond de jeux de société, donc qui datent de 1920 jusqu'à la fin du XXe siècle. Hein. Et en 1900, il y avait des jeux vraiment très, très anciens. Ça m'a permis, en fait, de mettre en valeur, comme on dit, IRL, real life, dans la vie réelle, de faire une exposition comme si on la faisait dans un vrai musée. Donc avec des panneaux, des cartels, un sens de visite. Donc L'expo virtuelle, c'est des choses que j'ai mis en place. Bon, j'en ai fait une sur la reconstitution historique aussi. Mais les cultures d'imaginaire, ça m'a permis vraiment de tester justement le public des métavers que je mettais en place, de voir comment ils se comportaient par rapport à l'outil, et j'ai eu quand même plutôt des bons retours. Et le deuxième, bah, c'est un événement que j'ai organisé là en début d'année, c'était le 4 et 5 mars. C'était le premier salon des libres auteurs. En fait, c'était un salon de l'auto-édition, des auteurs auto-édités. Donc, c'était un petit événement sur un week-end où il y avait une vingtaine d'auteurs auto-édités qui étaient sur des stands virtuels dans le métavers. Et les gens venaient les visiter en visio, donc avec leur avatar qui était en 2D, et ils allaient sur leur stand rencontrer les gens en visio. Donc c'est aussi une expérience qui est intéressante, parce que du coup, quand on parle d'institution culturelle, elle est toujours implantée dans une collectivité, dans une territorialité. Là, on peut avoir des gens, et ça a été le cas, hein, des gens du Canada, de différents points du monde, qui viennent aussi, et qui viennent comme s'ils étaient là en réalité. Et en plus, cet aspect de la visioconférence, ça permet une relation encore plus directe. Voilà, moi, c'est ces deux événements-là qui n'ont pas touché des milliers d'utilisateurs, mais qui, en termes d'expérience, et notamment humaine, ont été vraiment, en tout cas, valorisants pour moi, et puis qui m'ont encouragé à continuer dans le développement du métavers.
Bien, François Vanille, merci à vous, hein, merci pour cet entretien, merci d'avoir sensibilisé nos auditeurs aussi à comprendre ce que vous venez de dire, hein, que dans les métavers, les contraintes d'espace et de temps finalement disparaissent, hein, et ça nous ouvre un champ des possibles qui est encore mal perçu, sans doute inexploité. Nos auditeurs pourront vous retrouver sur le web et les réseaux sociaux, hein, notamment LinkedIn, pour ne pas le citer, hein, où vous êtes très actifs. Merci à vous, merci mille fois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ce podcast vous était proposé par la e-communauté culture et territoire du CNFPT, et je vous propose de nous retrouver très prochainement sur Fréquence T, la radio des territoriaux. À très bientôt. Au revoir.
Merci.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.